plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps.
Ok.
At the same time, excellent plugin for you.
Je m'appelle Marion Grenier, je suis photographe et je présente une exposition intitulée « Nous n'étions pas censés survivre » à la Galerie Maupetit du 23 février au 1er avril. C'est Marion Grenier dans Plugin.
Plugin.
Bonjour, cette semaine, rencontre avec l'artiste Marion Grenier qui utilise les codes de la photographie anthropométrique, des portraits centrés, immobiles, frontaux et neutres des membres de trois communautés fondatrices de l'Amérique, les Amérindiens, les Afro-Américains et les Mennonites qui auraient pu crier « Nous n'étions pas censés survivre ». Titre de l'exposition que présente Marion Grenier cette semaine chez Maupetit Librairie. À suivre dans cette émission, les sorties de la semaine dans le Plugin Live.
Plugin Live.
Vous entendrez les musiques de Cochomea, BRK, Sam Carpegna, Parade ou encore Imhotep. Bonne écoute. Cha-cha-cha d'Imhotep, extrait de l'excellent mini-coffret pendentif Scarabée rassemblant l'ensemble des œuvres de l'architecte sonore Dayam, disponible à Marseille chez Galette Records. Imhotep sera présent avec le Massilia Sound System, Zar Electric et DJ Musco à la soirée de soutien Ramina, réseau d'accueil des minots non accompagnés à Marseille, à la soirée Gâtez le coin qui invite à la fête mercredi 22 février à 19h30 au Makeda. Si vous souhaitez soutenir Ramina, infosite ramina.fr. Plugin. We'll be right back. sur la musique de Cochomea, rencontre avec une photographe qui questionne notre regard sur des visages fantômes qui hantent l'histoire des États-Unis, qui attestent de la persistance de la violence sociétale héritée de la hiérarchisation des races. À travers les visages des descendants des peuples qui fondèrent les États-Unis, Marion Grenier raconte la violence de l'histoire coloniale nord-américaine et sa persistance aujourd'hui. De la terre promise à une poignée de dissidents religieux blancs fuyant l'Europe, aux Indiens d'Amérique du Nord dépossédés au profit d'Européens avides, en passant par des Black Indians, descendants d'esclaves importés d'Afrique recueillis par les natifs à la Nouvelle-Orléans, Marion Grenier questionne de sa position d'artiste européenne. Elle utilise les codes de la photographie anthropométrique en usage dans le système colonial au XIXe siècle à travers des portraits centrés, immobiles, frontaux et neutres des membres de trois communautés fondatrices de l'Amérique, les Amérindiens, les Afro-Américains et les Mennonites qui auraient pu crier « Nous n'étions pas censés survivre », titre de l'exposition de Marion Grenier. Interview.
Je m'appelle Marion Grenier, je suis photographe et je vais exposer un travail à la galerie Maupetit, donc sur la Canebière, que j'ai réalisé aux États-Unis entre 2013 et 2018.
Alors c'est un travail autour des Indiens d'Amérique ?
Alors c'est autour des Indiens d'Amérique du Nord, parce qu'en fait ce projet, il est issu de la rencontre, d'une part dans ma tête, des fameux portraits d'un photographe qui s'appelle Edward Curtis, qui a photographié au début du 19e, enfin énormément les Indiens, c'est des portraits très connus d'Indiens, de chefs indiens, très fiers, etc. Donc des très beaux portraits, assez fascinants. Donc j'avais en tête cet imaginaire-là, cette iconographie-là. Puis j'ai aussi eu l'occasion, en fait, en faisant un voyage à New York, de croiser dans le métro une chorale de Mennonites. Alors les Mennonites, c'est une communauté blanche, proche des Amish, donc très religieuses, très puritaines. On les voit dans l'exposition puisqu'ils sont aussi présents, qui ont des visages assez étranges. Ils sont quasiment tous blonds aux yeux bleus. Enfin, il y a une présence comme ça, d'une espèce de pureté presque dérangeante. Et en fait, j'ai vu ces personnes et leur image, justement, leurs visages me sont restés en tête. Et un jour, je ne sais pas trop comment, j'ai eu l'idée de retourner aux États-Unis et de photographier d'une part ces Mennonites et des Indiens et ensuite de les présenter ensemble comme si je faisais se re-rencontrer aujourd'hui deux populations qui s'étaient rencontrées à l'origine des États-Unis, donc les autochtones, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, on les appelle aujourd'hui, et donc cette population blanche qui pour moi avait un petit peu gardé en fait une manière de vivre comme celle des premiers colons puritains, donc avec ce côté missionnaire d'apporter la bonne parole, la civilisation à un peuple sauvage. Voilà, donc c'est un petit peu simplifié, mais avec cette idée-là.
C'est un lien entre ces portraits de blancs et des portraits d'Indiens réalisés par ce photographe, Curtis, qui t'ont inspiré ?
Alors, il n'a pas photographié les blancs, il a photographié que les Indiens. Donc les blancs, c'est ces gens que j'ai vus. Et aussi, c'est vrai que ça m'a rappelé d'autres portraits qui ne sont pas pour le coup de Curtis, mais de photographes américains assez connus qui ont photographié les États-Unis pendant la Grande Dépression. Quelqu'un comme Walker Evans ou comme Dorothy Lange qui ont fait des portraits, alors pas du tout de Mennonites, mais de métayers, donc de blancs très pauvres qui se vendaient pour ramasser, récolter dans les champs, etc. Mais en fait, les visages qui étaient photographiés, les attitudes des gens, il y avait quelque chose de très austère comme ça que j'ai retrouvé chez les Mennonites, même si c'est que visuel, c'est pas les mêmes personnes, mais il y avait aussi ces visages-là, ces portraits-là, cette histoire visuelle et iconographique des États-Unis qui m'est revenue en tête. Donc j'ai commencé ce travail en 2013. J'ai d'abord photographié les Mennonites. À chaque fois, en fait, c'est un travail qui me prend pas mal de temps parce que je retourne photographier les gens. Donc les Mennonites, j'ai fait 3 séjours de 3 semaines à mois à chaque fois Comme j'ai photographié en extérieur, j'y vais l'été ou le printemps, puisqu'il faut que les conditions climatiques le permettent. Donc j'ai commencé par les Mennonites, que j'ai photographiés en Pennsylvanie. Et ensuite, j'ai commencé à photographier des Indiens. Et parallèlement au séjour que je faisais, je lisais énormément sur l'histoire des États-Unis. Et puis petit à petit, en fait, mon sujet il s'est un peu déplacé, parce qu'en lisant beaucoup sur cette histoire, et donc l'histoire de la colonisation et de la violence de cette colonisation vis-à-vis donc des Amérindiens, mais aussi vis-à-vis des esclaves ramenés de force d'Afrique. Et donc je me suis dit, si je veux parler en fait de la colonisation américaine, je ne peux pas ne pas ajouter cette communauté. Il y en a d'autres, mais j'ai voulu me limiter à trois communautés vraiment emblématiques de cette histoire. Et donc en troisième élément, j'ai ajouté cette communauté afro-américaine que j'ai photographiée en l'occurrence à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, donc dans un état anciennement sudiste et extrêmement marqué par l'histoire de l'esclavage aux États-Unis.
Surtout marqué par le recueil des esclaves par les Indiens et une histoire mêlée quelque part. Quand on regarde tes photos, elles transpirent ce mélange.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que au contraire, d'une certaine manière, donc mon travail c'est uniquement des portraits, et j'ai choisi justement de montrer ces portraits, chaque communauté presque séparément. C'est-à-dire que j'ai pas mélangé les visages de tous. C'est la manière dont je les présente dans les expositions que je fais, et puis dans le livre qui a été publié aux éditions du Bec en l'air, je les mets les unes après les autres. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette manière de les présenter, c'est justement aussi pour montrer combien la société américaine s'est construite sur une ségrégation et une séparation des races, ce qu'on appelait à l'époque et ce qui peut s'appeler encore aujourd'hui, même si le mot parfois fait peur, fait mal, de par ce qu'il raconte et la violence et la domination qu'il raconte. Et voilà, par chaque race, donc ces Amérindiens, ces Blancs, ces Noirs, enfin il y a même vraiment la couleur de la peau, il y a tout un travail un peu là-dessus, peut-être caricatural, mais pour montrer finalement comment cette société s'est construite, pour remettre en avant quelque chose qui est peut-être un peu dilué dans la vie quotidienne, mais qui finalement est fondamental dans le fonctionnement de la société américaine. Donc c'est un travail uniquement de portrait, et en fait en réfléchissant au fur et à mesure de l'avancée de ce travail, en me plongeant dans l'histoire de cette colonisation, de la domination blanche qui est venue, soi-disant civilisée, mais en fait massacrer les Indiens, réduire en esclavage les Afro-Américains, etc. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la photographie qui a été inventée en fait à un moment où la colonisation était vraiment toute puissante, voilà, extrêmement installée, et en fait la photo, et en particulier le portrait photographique, a été utilisée à des fins scientifiques pour en fait qu'il y avait différentes races et des races inférieures à d'autres, etc. Évidemment, la race blanche étant celle au-dessus des autres, etc. Et mon idée, ça a été aussi de montrer la manière dont cette science occidentale s'est emparée de la photographie, et comment la photographie et le portrait photographique que je pratique est aussi chargé en fait par cette histoire.
Tu travailles essentiellement en argentique. Il y a un petit peu de numérique pour la finalisation des photos, mais au départ, c'est un travail argentique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille avec un appareil moyen format pour des portraits. Donc, c'est un appareil que je suis obligée de poser sur un trépied, et où il y a un système où je ne fixe pas, je ne vise pas, je ne regarde pas dans un viseur qui fixe, qui est en face de la personne photographiée, mais j'ai le visage tourné vers le bas. Donc, ça crée un peu une autre relation en fait avec le modèle que je photographie. Et donc je photographie en argentique, comme c'est un travail que j'ai fait en couleur, pour maîtriser en fait tout le processus de la prise de vue jusqu'au tirage. Je numérise les photos choisies pour pouvoir moi-même faire un travail de colorimétrie pour homogénéiser les séries entre elles, etc.
Les portraits que tu présentes, on va pouvoir les admirer en grand format.
Oui, en fait, ils font à peu près 1 mètre par 1 mètre. Donc, c'est des très grands formats qui vont être présentés en fait simplement accrochés en étant cloués au mur. Donc c'est un mode de présentation qui a cette espèce de présence imposante. Donc il y a une espèce de petite tension comme ça, tout en ayant un mode d'accrochage assez léger. Et le choix aussi du grand format, c'est parce que c'était plutôt des petites figes. Donc en fait, cette histoire du portrait qu'on appelle le portrait anthropométrique, en quelque sorte, je réactive cette histoire-là. Mais la raison pour laquelle le portrait me fascine, c'est aussi de contredire, c'est de montrer que je saisis des choses qui me plongent dans quelque chose chose de très mystérieux, et plutôt que d'enfermer justement la personne dans des marqueurs de couleur de peau, de forme d'yeux, de forme de nez, de forme d'oreille, ben en fait, je vois des visages qui me sont totalement mystérieux et en fait qui m'échappent. Et au lieu d'être enfermé, ça permet en fait d'être confronté à une altérité qui nous échappe et à montrer que tout être humain est irréductible comme ça à des signes et qui résiste en fait à tout ça.
Entre portraits de carte d'identité ou de passeport présentés en grand format, c'est de jouer aussi avec cette dimension et de donner envie au public, au-delà du portrait, d'aller lire les cartouches parce qu'il y a du texte qui accompagne l'exposition.
Tout à fait. En fait, j'ai cherché comment je pouvais montrer un travail sur l'histoire des États-Unis. Donc cette dimension historique, ce rapport au passé. Plutôt que de mettre un texte de présentation un peu didactique, je me suis plongée en fait dans des textes de loi. D'une part, pour les Amérindiens, en fait, les traités qui ont été passés entre des tribus indiennes et les jeunes États-Unis et qui montraient comment les États-Unis, de manière très hypocrite, en fait, puisqu'après, ces traités n'ont pas été respectés par les États-Unis, etc., mais ont tenu à formaliser, comme ça, la manière dont ils volaient, en fait, les terres aux Indiens. Donc, en fait, j'ai extrait des passages de certains de ces traités qui exprimaient de manière assez claire le processus qui avait été utilisé. Ensuite, pour les Mennonites, j'ai pris des extraits en fait de la Bible, comme j'ai vécu avec eux, puisque chaque population en fait, donc comme j'expliquais, je vis quelques mois avec eux pour les photographier, donc des extraits de la Bible qui montrent aussi un peu leur manière de vivre très séparée, puis le côté un peu prosélyte quand même de se considérer comme un peuple qui détient une supériorité spirituelle et qui veut pas forcément de manière agressive. Les Mennonites sont des gens très pacifistes. C'est un peu délicat la position des Mennonites parce que pour le coup, moi j'utilise ce qui représente pour moi qui ne correspond pas forcément à vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est pas des affreux colons sanguinaires, etc. Mais ils ont ce puritanisme, cette dimension prosélyte, etc., qui continue d'alimenter. Et donc c'est cet aspect-là de leur mode de vie qui m'a fait les choisir comme représentants de la race blanche et des colons blancs. Et pour les Afro-Américains, j'ai choisi en fait des extraits de ce qu'on appelle les Black Codes ou les Codes Noirs, qui d'ailleurs sont d'abord des textes de loi français, qui donc en fait légiféraient sur la vie des esclaves. Et en fait finalement, les Black Codes, c'est pour moi presque ce qui est de manière la plus flagrante en fait le rapport avec la réalité d'aujourd'hui vécue par les Afro-Américains. Parce qu'en fait, quand on lit les Black Codes et les extraits donc, que j'en ai tirés, on se dit, quand on pense aux violences policières, donc George Floyd, qu'en fait, on se dit, la loi ne l'autorise plus, mais ces policiers, ils appliquent, en fait, le Black Code. C'est aussi simple et aussi glaçant que ça, quoi. Donc effectivement, j'ai choisi ces textes pour créer en fait ce lien avec l'histoire et combien en fait cette histoire, elle est encore extrêmement présente et combien elle détermine en fait la vie de ces gens, de manière volontaire ou subie.
Si on veut assister à l'expo.
Je présente une exposition intitulée « Nous n'étions pas censés survivre » à la Galerie Maupetit. Donc ça commence le 23 février jusqu'au 1er avril. Le vernissage, c'est donc imminent, à la Galerie Maupetit.
L'exposition s'accompagne d'un livre. La maison d'édition, c'est une maison d'édition marseillaise.
En effet, c'est un livre édité aux éditions du Bec en l'air, sous le titre en fait anglais, qui est « We were never meant to survive », qui est en anglais parce que ça se passe aux États-Unis et que c'est aussi un extrait d'un poème en fait d'une poétesse américaine qui s'appelle Audre Lorde. Donc la traduction française étant le titre de l'exposition « Nous n'étions pas censés survivre ».
Pour trouver le livre, il faut venir à l'exposition. On voilà. Est directement chez Maupetit.
Tout à fait. Il sera en vente à la librairie, au vernissage, etc.
Si on veut suivre ton travail, il y a un site internet, il y a un lien quelque part.
Oui, j'ai un site www.mariongrenier.com. Et voilà, et là, il y a toutes mes séries, donc centrées sur le portrait et sur le visage humain.
Merci.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Ne manquez pas, nous n'étions pas censés survivre, l'exposition de Marion Grenier, à voir du 23 février au 1er avril 2023, vernissage ce jeudi à partir de 18h chez Maupetit Librairie, Galerie d'Art, 142 La Canebière, infosite mariongrenier.com ou bien maupetitlibrairie.fr.
Plugin.
Vous venez d'entendre en avant-première It's Went Bad Somehow, extrait du futur EP de Parade qui sera accessible au public fin mai 2023 sur toutes les plateformes, fin avril en vinyle chez tous les bons disquaires. Parade sera en concert cette semaine, samedi 25 février à l'usine à Istres. Plugin. Puisque nous parlons agenda, à présent quelques dates à retenir cette semaine, c'est le Plugin Live.
Plugin Live.
On en parlait en début d'émission, soutien à Ramina, Gâtez le coin, avec Massilia Sound System, Imhotep, Zar Electric et DJ Mosco, mercredi 22 au Makeda. On en parlait aussi jeudi 23 à partir de 18h, vernissage de l'exposition « Nous n'étions pas censés survivre » de Marion Grenier, à voir jusqu'au 1er avril chez Maupetit Librairie.
Plugin Live.
Autre date, ce vendredi 24 février, à partir de 18h30 du hip-hop Soul avec Joe Bruce et Bloonbat en showcase au Lollipop Music Store. À 19h, Oops et Farouche Zoé seront en concert chez Leda Atomica Music. À 20h, début du DJ set La Vague au local C4 Tatouage, BRK Hyperactivity à la Dame du Mont. Et à 22h30, la soirée 13 carats by Goldie B, Kant et Judah au Makeda. Plugin.
Le fio da chamana si la vau, millenari trauke la nuit. Toi et si masclore converse les contraries. En jean très détil à l'agneau, loin d'au silencie. En jean très loin des essais et Chaman, jobli putau, agacha kamala pairo.
Vous avez reconnu quelques notes de Chaman, titre de Sam Carpegna, à voir sur la même scène que Mike Aube et François Rossi au Data, samedi 25 à partir de 19h, 44 rue des Bons Enfants, dans le 6e.
Plugging Live.
À voir aussi ce 25 février à 19h, Seven Devils chez Leda Atomica, à 20h30, And Also the Trees, en concert à l'Espace Julien. À 21h, la soirée Cagole Nomad Party numéro 12 au Molotov, ou bien le concert de Liquid Jan et Scorpio Queen à l'Intermédiaire. Plugging.
Plugging Live.
On se quitte sur le titre Parallèle Line de Catalogue, extrait de leur dernier album Moderne Délusion. Catalogue qui présente la release party cassette, oui cassette, dimanche 26 février à 17h chez Cat Community, rue Saint-Pierre. Catalogue à écouter dimanche 26 février à 17h chez Cat Community avant de vous rendre au concert unique de Conflict, le groupe punk de légende from UK au Molotov. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres interviews, news ou infos concerts. Et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire.
Plugin.
Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 10h, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.